Chers auditeurs de Radio Maria, nous partons aujourd'hui pour l'Oise avec l'école de vie Don Bosco et nous recevons Véronique Leguet. Véronique Leguet, bonjour.
Oui, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Alors avant de parler de votre école, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Oui, alors voilà, je suis donc de nationalité monégasque, transférée dans l'Oise, on va dire. J'étais professeure des écoles de profession et de formation. J'ai fait beaucoup de colonies de vacances, d'animation, en patronage quand j'étais plus jeune. Et j'ai passé du coup un master de bioéthique pour pouvoir approfondir les sujets que nous traitons en école de vie. Voilà. Je suis donc responsable de l'école de vie depuis à peu près 14 ans. Et je suis vierge consacrée du diocèse de Paris.
Voilà. D'accord.
J'ai 47 ans, si ça peut intéresser, voilà, pour le parcours, pour préciser.
Alors, parlez-nous de l'école de vie de Moscou.
Alors voilà, l'école de vie, donc ça fait déjà, on en est à la 18e promotion d'étudiants. Et donc nous proposons aux jeunes de bâtir leur vie sur le roc, pour être, comme le disait Don Bosco, qui est notre saint patron, de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. Ce qui fait que nous avons un programme qui allie à la fois enseignement et puis vie ordinaire, on va dire, hygiène de vie, vie spirituelle. Alors pour ce qui est l'enseignement, on allie à la fois la pensée de l'Église, donc des enseignements structurés aussi bien par des encycliques, par de la théologie morale, par du catéchisme, pour comprendre quel est l'enseignement de l'Église et mieux avoir envie de le suivre. Et puis aussi des enseignements pluridisciplinaires, plus classiques qu'on retrouve en faculté, de médecine, philosophie, économie, droit, pour vraiment faire comprendre aux jeunes dans quel monde il va rentrer, qu'est-ce qui se passe dans le monde dans lequel il va vivre, il est appelé à vivre et surtout appelé à agir. Et donc, il faut qu'il se forme. Alors je reprendrai après peut-être les enseignements. On insiste beaucoup sur l'équilibre de vie. Alors à la fois plein point de vue intellectuel et puis l'action, et puis aussi temps de prière, sport, hygiène de vie. On a un partenariat avec une salle de sport voisine où les jeunes donc peuvent y aller 7 jours sur 7, mais nous on insiste pour qu'ils y aillent au moins 3 jours par semaine, voilà, 3 fois par semaine pour se défouler. Après nous avons un parc de 4 hectares qui permet aussi de s'aérer, voilà, pour pas rester tout le temps enfermé. Et puis un équilibre d'année, avec une formation à la fois pour soi, donc tout ce qui est l'enseignement que je vais détailler, mais aussi une ouverture aux autres. Et donc dans le parcours de l'année, il y a aussi bien des actions auprès des lycéens, des temps auprès des personnes handicapées, et puis des temps auprès des personnes malades, notamment à Lourdes. Voilà. Il y a aussi un petit créneau début d'année qui n'est pas ouverture aux autres, mais qui est plus connaissance du monde du travail, avec une participation aux vendanges en Bourgogne, voilà, à Meursault, plus exactement au domaine Vincent Bouzereau. Voilà pour une petite introduction, on va dire. Alors quand je dis en fait l'école de vie comprend qui ? L'école de vie comprend donc des gens qui vivent sur place et puis pas mal d'enseignants qui viennent donner leurs cours, donc une vingtaine, 20-25 enseignants, qui sont professeurs de chirurgie, donc qui opèrent et qui enseignent en faculté, et puis qui viennent aussi intéresser nos jeunes, qui sont chefs d'entreprise, qui sont juristes. Voilà, le but, c'est vraiment que les étudiants connaissent la matière telle qu'elle peut être enseignée, enfin en faculté ou ailleurs, et puis comprennent les défis auxquels ils vont être appelés, parce qu'évidemment, quand on parle médecine, on va pas s'occuper de réduire des fractures, des choses comme ça. Donc c'est plutôt l'embryologie, les soins palliatifs, la fin de vie, l'état de conscience médical, la génétique, voilà, tous les sujets qui touchent au sujet d'actualité et de bioéthique qu'on va bientôt traiter là en France. Ensuite, en enseignement aussi, l'économie, avec une insistance sur l'entreprise, comment on peut être à la fois chef d'entreprise ou travailler dans une entreprise et puis ne pas regarder que le profit, mais aussi regarder donc ceux qui travaillent avec nous, donc toute la réflexion de la doctrine sociale de l'Église, voilà, comment elle peut être mise en place, sachant que nos jeunes vont souvent après dans des métiers qu'on retrouve un peu partout, enseignement, enfin paramédical et enseignement principalement, mais après nous avons des notaires, des architectes, enfin des des jeunes qui ont fait du commerce, donc ils ont besoin aussi peut-être de réfléchir à comment l'Église propose le travail, d'abord qu'est-ce que le travail et puis comment l'Église propose d'avancer dans un monde qui regarde peut-être plus les valeurs de l'avoir que les valeurs de l'être. Donc on insiste aussi beaucoup sur ces valeurs. Voilà. Donc voilà, une vingtaine d'enseignements, dont pas mal de prêtres aussi, qui viennent donner des cours de théologie morale, de catéchisme. Voilà, une petite équipe, donc au final de 25 enseignants. Voilà. Le nous, c'est aussi des anciens, donc on appelle des assistants dans le langage salésien, des anciens qui acceptent, après avoir terminé leurs études, de venir pendant une année ou deux pour certains, avant de vraiment se lancer dans la vie active, ou alors en faisant une pause de vie active, venir encadrer les plus jeunes, voilà, en tant que frère aîné, concept qui est vraiment cher à Don Bosco, et on s'appuie beaucoup sur la pédagogie de Don Bosco. Donc ces jeunes prennent des responsabilités, aussi bien auprès des étudiants que de l'hôtellerie, puisque nous avons 95 lits agréés jeunesse et sport. Donc ces jeunes participent aussi à l'hôtellerie et puis au témoignage que être chrétien et au service des autres peut rendre joyeux et rend joyeux. Donc voilà, puis après ils partent mener leur vie. Et puis donc c'est une structure de salariés, autres qui ne sont pas des anciens, donc pour tout ce qui est l'intendance de la maison, on va dire, et puis voilà, moi-même en tant que directrice. Donc l'équipe, c'est vraiment, voilà, c'est pas trois personnes sur place, mais c'est vraiment une équipe de 30 personnes qui font tourner l'école. Voilà. Alors j'ai pas donné toutes les matières tout à l'heure, il y a pas mal de philosophie, ce qui est important aussi, avec Monsieur Ducamp, qui enseigne au séminaire de Paris, qui était ancien directeur d'un établissement scolaire à Paris aussi, et puis qui enseigne à d'autres, dans d'autres institutions d'église, on va dire, voilà. Nous avons de la théologie sur la révélation de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce sont, quand je dis tous ces cours, c'est parce qu'en fait ce sont des intervenants donc qui viennent de toute la France, hein, Nice, Aix-en-Provence, Salon-en-Provence, Bretagne, et puis qui vont rester plusieurs jours dans la maison pour enseigner leur matière. Donc c'est pas comme en faculté où c'est lundi matin telle matière, lundi après-midi telle autre matière, mais là c'est plutôt dans la semaine trois jours d'écoute active, et puis après deux jours de théâtre, et puis après deux jours sur le judaïsme, et puis après deux jours ou trois jours sur la philosophie, et puis après voilà. Donc vraiment des sessions différentes de matière pour bien rentrer dedans et puis pour pouvoir aussi discuter avec les enseignants qui ne sont pas juste des intervenants mais qui sont vraiment aussi dans ce suivi des jeunes, ce souci des jeunes, puisque notre école veut aussi proposer aux jeunes d'être accompagnés, donc par les prêtres qui passent spirituellement, par moi qui demeure peut-être sur leur manière de vivre avec les autres, mais aussi par rapport à chaque intervenant, voilà, possibilité de le rencontrer après les repas ou entre deux cours, pour soit approfondir une notion, soit se dire, dans ma vie, voilà, comment je peux aller, voilà, des conseils de vie, puisque vous êtes marié, par exemple, donc comment je peux, par rapport à ma future vie, creuser tel aspect, où il y a un intervenant qui est diacre, donc est-ce que je peux être appelé, comment on voit, enfin voilà, plusieurs possibilités de rencontrer les intervenants, et puis d'avoir des avis, des conseils. On n'est pas très directeur, donc on n'est pas dans la direction, mais on est plus dans les conseils, et on propose aux jeunes de pouvoir aller grappiller ou de pouvoir avoir à disposition plusieurs cartes, et puis c'est eux qui choisissent les cartes. Alors tel ou tel prêtre peut-être plus pour un accompagnement, pour une confession, ou tel ou tel enseignant qui revient plusieurs fois dans l'année parler de l'écoute active ou de la communication non violente ou des émotions, enfin etc. Plusieurs possibilités pour les jeunes de rencontrer des adultes qui sont dans le monde et qui peuvent les conseiller et qui sont des figures bienveillantes mais qui ne sont pas celles de leurs parents. Voilà. Ensuite, un point qui est aussi important dans notre année, c'est l'ouverture aux autres. Et c'est vrai que les écrans ne favorisent pas beaucoup cette ouverture aux autres. Donc d'ailleurs, dans cette maison, les écrans, heureusement les ondes ne passent pas trop, mais les écrans sont assez limités, on va dire, aussi bien les portables que les écrans ordinateurs que télévision. Voilà, on dit que ça consommait avec modération. Et donc, comment se tourner vers les autres? Alors par la prière déjà, par la disposition du cœur, mais peut-être aussi en creusant, on étudie beaucoup l'évangile de la vie qui permet, donc l'encyclique du pape Jean-Paul II, qui permet de découvrir à quel point c'est toute personne qui est proche de nous, qu'il faut aimer, on va dire peut-être de temps en temps supporter, surtout dans une vie de groupe, et que donc l'ouverture aux autres, c'est pas seulement dans les grandes actions, c'est pas seulement quand on va aller auprès d'une communauté de l'Arche ou quand on va aller à Lourdes, mais c'est dans la vie de tous les jours. Alors peut-être un grand-parent qui a besoin d'être écouté, peut-être dans la promo, quelqu'un qui a besoin aussi, ou par la prière, une cause qu'on aimerait soutenir, et puis peut-être même faire un projet financier. On va toujours dans l'année, en début d'année, nous allons toujours à Tours pour le 11 novembre. Tours a une grande, pour la fête de Saint-Martin, organise vraiment en lien entre le diocèse et la ville quelque chose de très sympathique, festif, mais aussi qui montre bien les plus fragiles. Et donc il y a un repas organisé avec les paroissiens, les diocésains, et puis ils invitent les gens qui sont dans la rue ou les gens qui sont plus fragiles psychologiquement. Et on se joint à eux chaque année parce que c'est vraiment un moment fort pour les étudiants de se dire, déjà il y a un diocèse qui fait quelque chose pour une fête forte, un jour de fête en plus, le 11 novembre, donc c'est férié, avec la ville, donc des grandes manifestations, donc c'est beau de voir ça encore en France. Et puis ce contact direct avec les plus vulnérables, avec les plus fragiles, on ne sait pas avec qui on va se retrouver à table, donc il y a aussi cette pauvreté de se dire avec qui je vais être, et en même temps d'aimer simplement la personne qui est à côté de nous, en ouvrant son cœur à elle. Voilà. Donc Saint-Martin, on en fait un pèlerinage, on aime bien justement aller sur les lieux des saints pour plus prendre le temps de comprendre. Alors avec Saint-Martin, effectivement, c'est la pauvreté, donc les béatitudes, mais nous allons aussi à Rouen pour la vertu de force avec Jeanne d'Arc, nous allons à Lyon pour découvrir Marie un petit peu différemment au moment des fêtes de lumière, et puis pour proposer nos services pour l'évangélisation dans la rue. Voilà, nous allons à Lisieux pour comprendre la petite voix, et puis maintenant à Alençon avec Louis et Zélie Martin, voilà, comprendre aussi l'éducation et puis la spiritualité conjugale. Alors on essaye vraiment de faire comprendre toutes les facettes de la vie, et puis faire que chaque étudiant puisse, par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'il a vu, à ce qu'il a entendu, ce qu'il touche personnellement, puisse construire sa vie comme ça, ou mettre des balises, parce que c'est pas en un an non plus qu'il va tout construire et se transformer, mais il va poser les bonnes bases. Alors on va aussi à peu près tous les deux mois, avant chaque vacances en fait, nous allons dans une abbaye pour nous poser. Voilà, il n'y a pas d'autre consigne que de participer aux offices et puis au repas en commun. Après, chaque étudiant est libre de faire ce qu'il veut pendant 2 jours. Alors soit il se balade et il s'aère, soit il reprend des cours qui peuvent l'aider à peut-être prendre des petits engagements pour la suite, ou voilà, mais vraiment prendre le temps, c'est l'avantage de 1 an en internat, c'est que ils ont peu de vacances, ils ont les vacances scolaires mais peu de congés parce qu'on fait beaucoup de choses, et l'avantage de ce temps, la durée, on a le temps vraiment avec les jeunes de construire un projet, de réfléchir, d'avoir la régularité de la prière, j'en ai pas parlé encore, mais la prière, donc en fait, on commence le matin par un temps de prière, préparé par des jeunes à tour de rôle, donc ça fait partie de leur service, ils ont une semaine de prière à tour de rôle à préparer, et puis ensuite ils ont cours, ils enchaînent, donc la prière en principe est à 9h moins le quart, ils ont cours de 9h à midi, et puis à midi il y a la messe ou un temps de prière en fonction des jours. Donc la messe est toujours proposée comme une invitation. Et donc là, ils sont libres d'y assister ou de ne pas y assister. Soit aller sur place, soit aller dans la ville à côté, Gisors, avec le Père Morin. Voilà. Et puis le soir, à nouveau, un temps de prière proposé, vécu ensemble avec les étudiants, qui peut être un temps d'adoration, un temps de partage d'évangile, le chapelet de la miséricorde, les vêpres, simplement un temps de louange en silence, un temps de louange ou alors un temps de silence. Voilà, et puis les complices sont proposés chaque soir aussi, mais ça c'est à la liberté de chaque étudiant d'y venir ou de ne pas y venir. Voilà, donc la vie de prière, avec de temps en temps des temps plus importants, des temps plus forts, on va dire, comme ce que je disais tout à l'heure, l'évangélisation dans les rues, donc qui est un temps marquant, et puis avec des temps de prière pour soutenir, ou les pèlerinages, voilà, ou alors la vie dans une abbaye. Ce sont des temps un peu plus forts, mais l'ordinaire, vraiment de proposer aux étudiants de construire aussi leur vie de prière et leur rythme de prière. Donc c'est pour ça que, n'étant pas une communauté religieuse, on n'a pas le matin les laudes, l'après-midi, le soir les vêpres, et puis la messe au milieu, et puis les complices pour finir, mais on a plutôt des prières différentes pour que chaque étudiant se trouve sa propre prière, ou trouve la manière dont il aime prier, et puis pose petit à petit dans sa journée ces mêmes rythmes pour qu'il puisse les tenir. Et c'est vrai, quand un ancien revient en disant « j'ai trouvé, j'ai réussi à stabiliser ma prière, je vais à un groupe de prière, le matin je prie avant d'aller en cours, ou alors je prie plutôt le soir », voilà, quand ils sont contents aussi de venir nous dire « voilà, j'ai posé mon rythme de prière ».
Alors,
c'est important pour eux.
Je crois que vous, concernant la vie de prière, vous leur apprenez à avoir une vie de prière personnelle, et vous tâchez de leur apprendre la prière en silence, parce que souvent les jeunes sont plus habitués à des rassemblements où ça bouge, où il y a du bruit.
Oui, tout à fait. On n'est pas dans cette grande animation. D'ailleurs, les étudiants ne sont pas plus de 10, hein, puisqu'on en prend 10 par maximum par année. Donc ça fait qu'on se retrouve souvent à 14, pas plus. Donc là, la grande animation est difficile. Et donc c'est plutôt une prière intérieure, ou une prière, comme vous dites, vraiment apprendre à prier seul le Seigneur. Voilà, ce qui n'empêche pas d'aller à des grands rassemblements, mais trouver sa force intérieure, et mettre le Seigneur vraiment dans sa vie.
D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure des pèlerinages que vous faites, donc notamment à Alençon avec Louis et Zélie Martin. Et justement, il me semble que l'école de vie Don Bosco n'est pas, je le précise pour les auditeurs, ce n'est pas une école de discernement pour la vie sacerdotale ou religieuse, mais vous êtes plutôt tournée justement vers les vocations dans le monde telles que la vie conjugale et familiale.
Oui, tout à fait. Les jeunes qui viennent chez nous ne sont pas du tout en demande de discernement. D'ailleurs, sur 130 jeunes qui sont passés, il n'y a que 3, il y a un prêtre et 2 religieuses. Donc ça montre bien que ce n'est pas ça qu'ils recherchent, et chez nous en tous les cas. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup plus de faire-part de mariage et de naissance d'enfants. Donc c'est vraiment une école pour des jeunes qui veulent vivre dans le monde et qui veulent peut-être prendre une année de pause avant de se lancer dans des études, parce que c'est souvent le cas, ou alors en cursus d'études, il y en a pas mal qui font des césures, pour se dire je me pose, je balise mon année, ma vie, mais pour une vie dans le monde, effectivement, oui.
Alors je vous laisse continuer.
D'accord, merci. Merci pour la précision demandée. Alors, on se base beaucoup sur la pédagogie salésienne et sur la culture de vie. Donc, c'est vrai que par rapport l'enseignement ou à la réflexion que les jeunes sont appelés à avoir, c'est vraiment, comme disait le pape Jean-Paul II, la culture de vie. Donc, la promotion du beau, promouvoir, défendre la défense de la vie, le service de la vie, et puis par la prière aussi, donc la célébration de la vie. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de vivre, et puis de les aider à mettre en place dans leur vie. Par contre, la pédagogie est très salésienne, avec quelques mots importants et quelques réalités aussi spirituelles, comme l'attachement de Don Bosco à l'Église, et puis à la Vierge Marie, et puis aussi l'attachement au sacrement, aussi bien de eucharistique que de réconciliation. Donc ce sont aussi des points d'insistance dans notre école, toujours donner la possibilité aux jeunes de pouvoir aller se confesser, de pouvoir communier le plus souvent possible, voilà, de faire attention à aimer l'Église, à ce que dit son Église. Et sinon, les autres mots-clés, donc les mots-clés de la pédagogie Don Bosco, la joie, voilà, ça c'est la joie qui s'obtient par un équilibre de vie, la joie qu'on essaye de développer par le faire ensemble, et puis aussi la joie de la réussite et de l'encouragement. Et c'est beau de voir des jeunes qui sont contents. Par exemple, là, ils sont en train d'accueillir des lycéens, Et c'est vrai qu'en début d'année, c'était moins facile. Et puis là, voilà, ils ont la joie de la réussite. Et puis quand on les entend en bilan le soir, ben, ils ont réussi davantage à prendre la parole en public. Ils ont réussi à s'imposer dans un groupe, enfin pas s'imposer, mais à rentrer dans un groupe et puis pouvoir discuter avec les lycéens, ce qui n'est pas toujours facile quand on a un an de plus ou deux ans de plus. Voilà, donc la joie et puis la joie de fêter beaucoup de choses, hein. Beaucoup de petits événements, ben voilà, la fin d'un accueil de lycéens de trois jours qui a très bien marché. La joie de se retrouver au retour des vacances, la joie de fêter des anniversaires, la joie toute simple d'être ensemble aussi et de pouvoir témoigner qu'on est content et qu'on est content de voir l'autre aussi. Autre mot-clé de la pédagogie salésienne, ben, c'est l'accompagnement. J'en parlais tout à l'heure un petit peu avec les intervenants. Mais alors, c'est pas de l'assistanat, donc c'est pas faire à la place, c'est pas de la direction, c'est pas réfléchir à la place. Il n'y a pas d'imposition non plus, mais c'est vraiment être à disposition. Donc moi, je suis dans mon bureau souvent jusqu'à 22h le soir pour que les jeunes puissent aussi avoir la possibilité de venir. Mais c'est être avec eux souvent pour leur permettre de venir discuter, de prendre des conseils ou juste déposer quelque chose. Voilà, ils savent qu'ils vont être soutenus au moins dans la prière. Et puis, si possible, davantage par des conseils, peut-être d'aller à tel ou tel endroit ou de faire telle ou telle chose. Voilà. Un autre point important de la pédagogie salésienne, ben, c'est la confiance. Une confiance réciproque, c'est pas juste le jeune qui fait confiance à l'adulte, mais c'est l'adulte qui fait confiance aux jeunes aussi, parce qu'on essaye d'être dans la vérité. Nous sommes des chrétiens des deux côtés, on va dire. Nous sommes de bonne volonté des deux côtés. Nous sommes là pour avancer ensemble. Donc la vérité est indispensable. Une confiance qui se bâtit aussi dans la liberté. Alors, il n'y a pas beaucoup de règles chez nous, à part les règles du bien vivre ensemble. Voilà. Et comme je disais, il y a beaucoup de cartes proposées pour que ça se passe bien. Les jeunes les prennent ou les prennent pas. Mais il n'y a pas énormément de choses imposées. Voilà. Et c'est aussi à eux, et même très souvent, ils sont perdus par cette liberté en disant, mais jusqu'à présent, on nous a beaucoup dit ce qu'on devait faire. Et là, on nous laisse libre de faire ce qu'on a à faire. Et souvent, les jours de repos sont un petit peu perdus. Les plus jeunes sont un peu perdus parce qu'ils ne savent pas justement ce qu'ils doivent faire. On leur dit, bah, tu fais ce que tu veux. Alors ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, la liberté aussi par rapport à leur manière de penser, la liberté par rapport à leurs idées. Voilà. Il n'y a pas d'obligation, même quand ils vont transmettre aux plus jeunes. Je leur dis toujours, vous ne transmettez pas un message auquel vous n'adhérez pas. Voilà, vous transmettez, vous discutez avec les jeunes, vous leur dites des choses auxquelles vous adhérez. Mais il n'y a pas de forcing, il n'y a pas d'obligation de dire des choses, il n'y a pas d'obligation de résultat. Donc vraiment la confiance dans la vérité, la liberté, et puis la bonne volonté que l'année se passe bien aussi. Donc, et ça, je crois qu'on n'est vraiment jamais déçu par cette confiance. Et puis, je le disais aussi au début dans l'introduction, mais être de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens, donc qui était vraiment important pour Don Bosco. Donc peut-être de pas trop confondre les deux non plus, même si nous sommes dans le monde, voilà. Nous ne sommes pas du monde, mais nous devons contribuer au monde dans lequel nous vivons, et puis nous devons aussi accepter les règles du monde dans lequel nous vivons, à partir du moment où ce sont des bonnes règles, on va dire. Et donc, de permettre aussi aux jeunes de pouvoir se positionner correctement dans la société dans laquelle ils sont déjà appelés puisqu'ils sont déjà citoyens à grandir. Alors pour ça, on essaye aussi de s'intéresser beaucoup aux sujets d'actualité. Donc les informations font partie de la journée, hein. Chaque jour, il y a un temps réservé à l'actualité. Et puis du coup, actualité qui permet les débats, qui permet de creuser aussi les sujets avec soit les intervenants, soit par des exposés pour bien comprendre. Et on reçoit pas les choses, mais on les subit pas. Mais donc tout ce qu'on entend, bah, il faut aussi qu'on arrive à comprendre ce qu'on nous dit, même aux informations, par exemple. Et puis vérifier un petit peu si on est d'accord avec ce qui est dit ou comment on peut l'intégrer dans notre vie pour pas être passif devant un écran, mais vraiment faire que tout ce qu'on voit, ce qu'on entend, bah, on soit acteur. Soit concrètement, soit au moins dans notre pensée. Voilà. Alors, je ne sais pas trop combien de temps il me reste, mais peut-être pour finir, je dirais que c'est une année qui est riche, active et fatigante. Alors, elle n'est pas facile à décrire, et c'est vrai que souvent, quand les jeunes, les parents disent, mais ils racontent pas grand-chose, c'est vrai que c'est pas facile, parce qu'à part la journée type, qu'on peut trouver sur le site, ou qui est assez facile à détailler, en fait, il n'y a aucune journée pareille, parce que, bah, comme je disais, hein, toutes les journées changent avec les intervenants qui se succèdent, avec des sorties, avec des accueils de lycéens, avec un départ à droite à gauche, donc c'est pas facile à décrire. Et c'est vrai que c'est assez fatigant finalement. Au début, on appelait ça une année sabbatique. Alors on évite de le dire parce que les jeunes disent mais en fait, c'est sabbatique au sens biblique, c'est-à-dire qu'on repose la terre et on la remue surtout. On la remue pour qu'elle s'enrichisse. Mais c'est assez fatigant comme rythme. Et comme il y a beaucoup de choses, ils savent qu'ils ont des matinées de repos. Ils ont de temps en temps 3-4 jours, mais c'est surtout au moment des vacances. Et cette richesse. Et cette action permet de donner aux jeunes de se découvrir eux-mêmes. Donc, où sont leurs limites, où sont leurs richesses elles-mêmes. Et c'est un vrai épanouissement qui arrive au bout de cette année, dû à la responsabilité qu'ils ont eue, à la réussite, aux encouragements. Voilà. C'est une année de confrontation aussi, parce qu'ils sont confrontés avec eux-mêmes, dans leurs éducations, leurs idées, les idées, les vices qu'ils ont, peut-être les défauts, les faiblesses, voilà. Donc il faut qu'ils se battent contre eux-mêmes, on va dire. C'est une année de confrontation aussi avec une promo. Ils sont une dizaine, mais ils viennent pas du tout de la même région. Nos jeunes viennent de toute la France, ils n'ont pas forcément le même âge. Il y en a qui sortent du bac, il y en a qui ont déjà un bac plus 2, plus 3, plus 4, même si on est 18-22 ans, donc ils sont à peu près dans le même créneau, mais dans ces 4 années-là, il a pu se passer beaucoup de choses. Voilà, donc besoin de se supporter, entre guillemets, d'accepter les différences de l'autre, de respecter les temps de parole de chacun. Voilà, donc c'est une vraie confrontation entre eux, au quotidien, on va dire. Une année de confrontation avec les lycéens qui reçoivent, ils reçoivent à peu près 600 lycéens dans l'année. Donc ils vont confronter leurs valeurs, leur foi, leur choix d'avoir fait une année, et puis leur choix futur, ou leur choix de vie qu'ils ont déjà très bien affirmé. Et puis aussi, une confrontation à tous ceux qui sont différents, et qui vont demander de la patience, de la compassion, de la souffrance, de temps en temps de dépasser ses limites. Voilà, donc c'est une année dans ce sens-là assez exigeante. Ensuite, c'est une année de maturité, parce qu'ils se prennent en charge eux-mêmes, hein, tout ce qui est lessive, ménage, service, responsabilité, leur propre hygiène, pas forcément corporelle, mais hygiène de leur chambre, de leur vie. Donc voilà, ça c'est une vraie prise en charge d'eux-mêmes. Donc on est souvent une passerelle finalement entre la vie de famille et puis la vie universitaire. C'est une année de maturité parce que ils vont apprendre intellectuellement, ils apprennent pour eux et pas pour des notes. Tous nos intervenants viennent donner leurs cours parce qu'ils participent au projet, ils sont en accord avec notre projet. Mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'interrogation. Donc il y a des temps de relecture, il y a des temps d'approfondissement. Mais après, voilà, c'est à chacun de faire ce qu'il veut de l'apprentissage reçu. Et c'est vrai que quelques jeunes en difficulté, par exemple au niveau du lycée, réapprennent à aimer l'enseignement, réapprennent à aimer les cours parce que c'est vraiment pour eux. Et donc il n'y a plus le stress et souvent ça les remet sur pied pour des études après parce que voilà, ils ont appris à aimer travailler pour eux. Et puis une année de maturité parce qu'il y a cette régularité de la prière. Et forcément, quand on prie, ça porte des fruits. Alors, on ne les voit pas immédiatement, mais dans la durée, le Seigneur travaille. Et donc, ça fait mûrir, ça apporte de la sagesse. Et puis, ça installe justement cette vie régulière de prière et qui reste ficelée au corps, on va dire. Voilà. Et puis, pour terminer, c'est une année pour soi, donc pour eux-mêmes, que chacun va réussir en fonction de son investissement. Alors, plus ils vont essayer de bien vivre leur année, ce qui se passe pratiquement tout le temps, hein, plus forcément ils vont attraper des choses, ils vont avoir des initiatives et c'est ça qui va aussi les faire grandir et faire qu'ils auront une très très belle année en souvenir. Et d'ailleurs, souvent dans les promos, il y a des témoins de mariage, il y a des parrains marraines de baptême, donc ça prouve bien que pendant ces un an, ils se sont donnés non seulement pour eux-mêmes, ils se sont découverts et ils se sont donnés aux autres et ça a créé des liens forts, même si on pousse pas à ce que ce soit des liens d'amitié, mais c'est pas l'obligation de se faire des amis pendant l'année, mais de fait, le vivre toutes ces choses fortes ensemble fait qu'ils restent proches les uns des autres, et voilà, même des familles en famille.
Alors, Véronique Leguet, peut-être une question concernant donc ce que deviennent ensuite les étudiants. Vous avez parlé des intervenants qui viennent de différents milieux professionnels. Est-ce que vous avez vu des étudiants qui changeaient d'orientation professionnelle après un contact avec un des intervenants ?
Alors, directement non. C'est vrai que alors ceux qui sortent de terminale et qui ne savent pas forcément dans quelle voie ils vont aller l'année d'après, d'ailleurs il y a souvent des jeunes qui viennent, des jeunes chrétiens qui viennent vraiment pour discerner, même si on dit qu'on n'est pas une école d'orientation. Donc du coup, eux prennent un peu plus de temps pour essayer de discuter avec les intervenants et du coup de voir ce qui pourrait leur plaire. Mais j'ai plus dans le sens inverse, c'est-à-dire plus des jeunes qui auprès des intervenants viennent confirmer que c'est bien la voie qu'ils veulent prendre. Je pense à un jeune qui voulait faire médecine et qui se disait « Mais est-ce que je me lance pour toutes ces années de médecine ?» Et le fait de discuter avec tous les intervenants en médecine et puis même avec les autres, il a vraiment confirmé son choix de devenir médecin, ce qui est fait maintenant. Donc c'est plus dans la confirmation, mais j'ai pas eu encore pour l'instant de jeunes qui changeaient, même si je me rappelle d'un autre qui disait oh ben, quand il y a un médecin qui vient, j'ai envie de faire médecine, quand il y a un économiste qui vient, j'ai envie de faire de l'économie, voilà, parce qu'ils rencontrent des gens passionnants, donc ils sont passionnés, mais il n'y a pas vraiment eu ce coup de foudre-là à changer d'orientation, non.
Alors, nous avons une auditrice qui souhaiterait vous poser une question, il s'agit de Lydie. Lydie, c'est à vous.
Bonjour. J'écoute votre émission depuis le début, mais j'ai peut-être mal écouté. Hein. Excusez-moi si je vous pose une question à laquelle vous avez déjà répondu. Je voulais juste savoir si cette école était ouverte à tous les jeunes, filles et garçons, ou juste aux garçons.
Alors, vous avez raison, j'en ai pas du tout parlé. non, c'est une école mixte.
C'est d'accord.
Voilà, on prend. J'avoue qu'il y a souvent plus de filles que de garçons.
Ah oui.
On a eu des promos uniquement féminines, exclusivement féminines, mais sinon c'est une école mixte et c'est en ce sens-là aussi qu'ils peuvent apprendre à regarder l'autre qui n'est pas le frère et la sœur, qui n'est pas forcément le petit ami qu'on a peut-être en dehors, qui n'est pas notre clan habituel de garçons si on est un garçon ou de filles si on est des filles. Et donc cette différence, ce partage de découvrir et de vivre avec des jeunes, d'autres jeunes de sexes différents. Ouais.
D'accord. Et ces jeunes qui voudraient rejoindre l'école de vie peuvent arriver à n'importe quelle période de l'année ou est-ce
Ah non, non. Non, non, l'entrée, c'est vraiment une année scolaire.
Ah,
donc on commence début septembre et on termine fin juin.
D'accord.
Voilà, donc ça c'est vraiment après comme une, on va dire, une université. Et d'ailleurs, on est souvent maintenant accepté en tant qu'année de césure. Donc des jeunes qui sont entre la deuxième, troisième année de fac ou qui demandent une année de césure officielle, on est reconnu par leur école. Et pareil, si un jeune a envie de faire une année chez nous alors qu'il est déjà pris dans une école, même une bonne école, une certaine prépa, etc., on leur garde la place et on accepte qu'il soit venu chez nous.
D'accord. Et au niveau du financement de cette année, j'imagine bien qu'elle a un coût.
Elle a un coût, effectivement. On demande, c'est pas le coût que nous coûte le jeune, mais disons qu'on demande 5 700 € aux familles.
Oui.
Nourris, logés, avec tous les voyages, on ne demande plus rien. Après, il ne faut pas que ce soit un obstacle, et donc on a des anciens qui acceptent aussi d'aider des jeunes à vivre cette année.
D'accord.
Donc on a aussi, on peut avoir aussi des parrainages. Donc on demande aux parents de donner ce qu'ils peuvent et ce qu'ils donneraient pour nourrir pendant un an, nourrir, héberger leur enfant, on va dire.
Oui.
Mais c'est pas grave. Nous avons des bienfaiteurs et puis nous avons des anciens qui acceptent de prendre en charge aussi une partie d'année des étudiants.
D'accord.
Voilà. Et merci pour les questions parce que j'en avais pas du tout parlé effectivement, ni de la visibilité ni du coût.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Bah, je vous en prie.
Belle année pour vous et pour votre école.
Merci. Belle année à vous aussi.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Merci Lydie. Au revoir. Alors, concernant justement l'organisation à l'école, donc vous avez parlé de cette liberté qui est laissée aux étudiants, dont parfois ils ne savent pas quoi faire, mais qui leur apprend aussi à s'organiser, il me semble. Je crois qu'ils gèrent eux-mêmes tout ce qui est menu, faire les courses, etc.
Oui, alors je parlais des services pour la prière, c'est vrai que je n'ai pas développé. En fait, dans la maison, comme ils ont une vie de service. Et donc, à tour de rôle, ils ont aussi bien faire la cuisine, enfin, aller acheter, faire les courses et préparer les repas pour les repas du soir uniquement. Pour le déjeuner, on a un cuisinier. Et certains repas du soir aussi, quand il y a des groupes, sont pris en charge par le cuisinier. Mais sinon, il appartient aux étudiants, à tour de rôle, donc pareil, ils sont par deux par semaine, de prévoir d'aller faire les courses. On a un centre Leclerc juste à côté, donc c'est facile. D'aller faire des courses et puis de préparer le menu. Toujours dans l'idée, c'est pas un menu vite fait que je fais, mais c'est je reçois les autres à ma table. Pour aussi apprendre à se donner même dans les petites choses. Donc ça, c'est aussi un service. Ils ont du ménage aussi, bien sûr, dans l'idée de se prendre en charge, aussi bien de leur propre chambre que de toute la zone qu'ils occupent, puisqu'ils ont, ils partagent en fait un couloir avec une cuisine qui est vraiment une kitchenette qui est vraiment pour eux, pour leur petit déjeuner et leur dîner. Et puis, ils ont un salon télé, il y a un grand salon et un bar. Donc voilà, toutes ces zones-là, ils sont tenus aussi de les laisser propres. Les poubelles dessous de la maison, enfin voilà, ils ont pas mal de petits services à faire. Et puis, il y a un parc de 4 hectares, donc c'est vrai qu'il y en a qui peuvent aussi avoir envie de... On a un sac de frappe où on a aller se promener ou courir ou faire du jardinage. Enfin, après, chacun est libre de s'investir dans cette maison qui est la leur pendant un an. Et même plus parce que nos anciens reviennent régulièrement. Et j'ai aussi oublié de dire qu'on avait un week-end d'anciens mensuel proposé. Alors c'est souvent les dernières années qui viennent parce qu'ils sont encore étudiants et sur Paris, donc très souvent ou pas trop loin, donc ils arrivent à venir. Et pareil, un week-end d'anciens avec une formation et puis tant de prières, tant de adoration, confession possible et puis tant de convivialité, d'échange entre les promos aussi. Voilà. Donc cette liberté de se prendre en main et puis de réfléchir à son avenir aussi, donc de prendre aussi en main tout ce qui est à venir et puis tout ce qui est organiser ses vacances, organiser. Donc ils ont pas mal de choses aussi à organiser par eux-mêmes et puis à travailler individuellement pour les cours qu'ils ont. Et donc il faut préparer ou relire ou voilà.
Donc c'est aussi un apprentissage à la vie d'adulte et à l'autonomie.
Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment, on insiste beaucoup pour qu'ils se débrouillent tout seuls. Ce qui n'est pas facile, en fait.
Pour voilà, eux,
se débrouiller.
Ils découvrent quand ils pensent adolescents, oui, ce sera plus facile quand j'aurai 18 ans, je pourrai faire ce que je veux. Ils découvrent que ce n'est pas si facile que ça.
Oui, tout à fait. Que ça demande justement je fais ce que je veux, demande d'être responsable et puis aussi d'accepter les conséquences de leur acte ou de leur non-acte, on va dire, s'ils ne font pas les choses. Puis les conséquences pour eux ou pour le groupe ou pour. Oui. Donc ils apprennent aussi la responsabilité envers eux et envers les autres, oui. Avec la liberté de faire ce qu'on veut, oui, va la responsabilité.
Alors vous avez parlé des interventions auprès de différentes personnes, notamment des lycéens. Je crois que ça s'appelle les JPJ, c'est ça?
Oui, c'est le concept donc des jeunes parlent aux jeunes. Donc effectivement, ils accueillent des groupes des écoles de Paris essentiellement, des classes entières, donc de temps en temps il y a une classe, de temps en temps il y a deux classes, pour des durées on a des contrats un peu différents suivant les établissements, donc un jour, deux jours, trois jours, et puis ils animent complètement la journée. Alors il y a quelques directives qu'on retrouve d'année en année, on va dire, c'est-à-dire avec des supports ludiques, il y a toujours un jeu ou une réflexion basée sur un support ludique. Après il y a toujours une réflexion vraiment la plus sérieuse, on va dire, un temps spirituel, et puis une pièce de théâtre que la promo met en scène, monte, écrit, avec un metteur en scène, Michel Vienno, et puis propose aux lycéens. Voilà, donc c'est à peu près sur une journée, ça donne ça. Après, le principe est le même si c'est 2-3 jours, mais il y a plus d'activités. Et là, vraiment, c'est eux qui ont la parole. Vous voyez, là, ils sont avec des jeunes et moi, je n'y suis pas. Donc, c'est vraiment eux, avec les assistants, les jeunes aînés, qui accueillent ces lycéens. Et le concept des jeunes parlent aux jeunes parce que c'est la même génération. c'est la même culture entre guillemets, du coup ils ont les mêmes mots, et puis ben, ils peuvent vraiment parler d'égal à égal, ce qui est le but aussi, hein, c'est de entre jeunes se faire grandir et s'aider dans la réflexion, même si eux ont réfléchi un petit peu en avance au sujet, pour pouvoir aussi éclairer si les jeunes ont besoin d'être éclairés sur tel ou tel sujet. Alors il y a toujours une culture de vie, une dynamique de culture de vie, donc le respect des autres, la beauté de la vie, et voilà. Après, souvent les étudiants choisissent leur thème, au moins la direction, et là cette année par exemple, la promo actuelle voulait insister sur choisis bien ton cap. Voilà, c'est important quand on est jeune de bien choisir où on veut aller. Et même si après on change, de se dire j'ai au moins une direction qui me tient et je pars pas dans tous les sens. Et puis si je vois que cette direction au bout d'un moment n'est plus bonne, ne convient plus, je prendrai un autre cap. Mais voilà, de pas faire la toupie, de pas vivre sans savoir où aller. Donc le cap des valeurs, le cap peut-être de l'orientation, le cap de ce qui est important, le cap des voilà, de vraiment trouver le but de sa vie. Qui est celui d'être heureux, mais savoir comment on veut y aller concrètement, c'est plus compliqué.
Alors, merci beaucoup Véronique Leguet. Nous arrivons au terme de cette émission. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse du site internet pour plus de renseignements, ainsi que vos coordonnées ?
Oui, alors le site internet, donc c'est www.ecoledevie-dombosco.fr. Mais si on tape École de vie Don Bosco, en principe, on tombe dessus. Les coordonnées, donc le téléphone, c'est 03 44 49 51 00. 03 44 49 51 00. Et l'adresse mail, contact@ecoledevie-dombosco.fr. contact@ecoledevie-dombosco.fr.
Eh bien, merci beaucoup, Véronique Leguet.
Merci à vous.
Et puis, à très bientôt. Et puis, bonne année à tous vos étudiants et vos intervenants.
Merci à vous aussi, puis à tous ceux qui nous écoutent.
Merci.
Au revoir.